Chapitre 3. Nicole et Germaine accouchèrent à 3 jours de distance. Chacun eut un fils. Nicole faillit mourir, si faible qu'elle ne pouvait parler. Elle mimait de la bouche ses 2 syllabes « mon fils » et elle consentait à la mort, apaisée, rassurée par la tendresse de son mari. « Tu es content ?» souffla-t-elle. Oui, oui, je suis content. Repose-toi. » Elle était très belle. Sur ce masque cireux, le mensonge de la femme avait disparu. Une joie maternelle l'illuminait, si intense que Benoît en était ému. Il feignait de son côté un grand bonheur. Il lui donnait des nouvelles de l'enfant. « Jacques est superbe, tu sais, un gars magnifique. Bientôt nous mettrons sur ton lit, mais... « Sois sage !» Et elle répétait « mon fils » avec extase. La nourrice le lui montrait de loin pour ne pas la fatiguer. De ses maigres doigts, Nicole soulevait ses paupières. Les images ne lui arrivaient que brouillées. La nourrice remportait l'enfant. Au bout de 3 jours, le médecin put répondre de sa malade. Et un coup de téléphone au terme convenu d'avance appela Benoît à Montmartre. Il assista à la délivrance aisée de Germaine. Il avait dû lui prescrire, promettre en y ajoutant un serment solennel, d'envoyer l'enfant en nourrice tout de suite. « Moi, je ne saurais pas m'y prendre, disait-elle, il sera beaucoup mieux. » Il espérait qu'elle changerait d'avis après l'accouchement, mais elle demeura inflexible. L'enfant fut déclaré sous le prénom de Lucien, Lucien Bi, père inconnu, avec le témoignage de Cyprien Lefiernon et d'un individu recruté devant la mairie. Quand tout fut fait en ordre, le nouveau venu-né confié à une garde, Germaine reposant, Benoît posa en sanglotant un baiser sur la tête fragile de son fils. « Bon, bon monsieur, susurra la garde, il sera élevé au biberon par une dame que je connais et qui est tout ce que l'on peut trouver de mieux en Seine-et-Oise, et discrète par-dessus le marché. Il sera, comme qui dirait, un héritier d'empereur dans de la ouate. En nourrice au loin, chez des étrangers. » Et plus tard, une mère égoïste et frivole, qui avait déjà pour l'intrus cette sombre et imbécile rancune qu'elle manifestait à son amant. Et si Benoît mourait, qui protégerait ce petit être? Sur qui s'appuierait-il? Que deviendrait-il dans ce monde féroce qui ne renonce à ses préjugés que lorsque ceux-ci ne peuvent pas le servir? Ah! Il pouvait le contempler, le mignon, l'héritier d'empereur, selon la garde. Mais il contemplait son crime. Et pendant ce temps, l'autre, le rejeton de Robert Fournier, déclaré légalement Jacques-Benoît Mézôle, serait légalement heureux entre sa mère et son pseudo-père. Son père, au regard de la loi et de la société. Les victimes, son vrai fils d'abord, lui ensuite, et il fit presque tout haut. Non, c'est impossible. S'il vous plaît, questionna la garde. Rien, rien, je reviendrai ce soir. Bien, monsieur. Il rentra à pied, s'efforçant de coordonner ses idées, se répétant, il faut agir et agir sans délai. Les gens qu'il bousculait le prenaient pour un démon. Il courait presque. Brisé de fatigue, il s'arrêta enfin place d'Italie. Et ce fut à la terrasse d'une brasserie où il s'écroula sur une chaise que l'idée lui vint de la substitution d'enfant. Dès lors, sa décision fut prise. Ainsi, il garderait son fils, vrai fils, près de lui. Il s'occuperait de l'autre, du fils de Fournier et de sa femme, et lui assurerait un sort paisible. L'entreprise envisagée froidement était pleine de difficultés. Le moment arrivait d'utiliser une intelligence employée jusqu'alors à de vaines abstractions. Comme beaucoup d'hommes d'études, il ne pouvait fixer sa pensée qu'en écrivant. Il sortit un carnet et crayonna. Quelques éléments semblaient favorables. Nicole, épuisée, avait à peine entreaperçu le nouveau-né. Germaine était indifférente. Il inscrivit. Songez aux langes qui devront être identiques. Louer une automobile à conduite intérieure. Retenir une nouvelle nourrice pour Jacques et obtenir qu'elle vienne le lendemain matin à 7 heures. À 11 heures du soir, prendre chez moi Jacques sous prétexte de le faire voir à sa mère. Fermer à clé la porte de la nursery. Aller à Montmartre. Déposer Jacques sur le fauteuil de l'antichambre pour que ses cris ne puissent être entendus ni de la garde ni de Germaine. Éloigner la garde en l'envoyant dans la cuisine me faire une tasse de thé. Substitution. Crier sur le palier. « Oh, il est plus tard que je ne croyais. Il faut que je rentre tout de suite. » Retour à la maison avec mon fils. Avant l'arrivée de la nouvelle nourrice, dire à l'ancienne « Votre lait ne me semble pas fameux. L'enfant ne profite guère. Voici 500 francs d'indemnité. Faites votre mal tout de suite. J'ai pourvu à votre remplacement. » Qu'elle prenne congé de l'enfant dans l'ombre des volets clos. Surveiller son départ immédiat. Retour à Montmartre vers 8h30. Indiquer une course urgente à la garde, remettre moi-même Lucien à la femme de Seine-et-Oise, la conduire à la gare, rentrer, prévenir Nicole du changement de nourrice. Elle me paraissait brutale, elle toussait. Il couvrit encore quelques pages de notes, entendant les plus minutieux détails de l'opération, prévoyant les surprises possibles. Il se reporterait à son carnet pour ne rien oublier, pour garder son sang-froid. Et il brûlerait le carnet quand tout serait fini. « Monsieur écrit des vers, » dit le garçon. « Oh, nous sommes habitués. Nous avons 2 ou 3 clients qui sont poètes. Ils se mettent à l'intérieur et je tabasse des lignes et je tabasse des lignes. Oh, j'aurais beau me creuser le ciboulot, je n'y arriverai pas. Chacun son métier. » Oh, je ne donne pas le bien pour supérieur. Benoît eut la complicité de la pluie, une pluie rageuse, interminable, qui ne cessait de fouetter en rafale que le temps de reprendre haleine, eût-on dit, pour tomber du ciel roux avec plus de violence encore. Tout était prévu, inscrit sur le carnet, jusqu'au plus infime détail. La réussite serait due à la minute de l'exécution. Plus tard, ce fut surtout de cette pluie que se souvint Benoît, de la lourdeur du manteau à pèlerine, un vieux manteau d'ailleurs, sous lequel il dissimulait son léger fardeau. La crainte d'une panne aussi, car il n'avait pas conduit d'automobile depuis 10 ans. Il fut immobilisé dans la montée de la rue des Martyrs. Un chauffeur de taxi lui vint en aide, qui le tutoya, prenant pour un collègue cet individu en manteau à pèlerine. « C'est rien, ma vieille, regrimpe dans ta bagnole, je vais te faire repartir en vitesse. » Jusque-là, tout s'était bien passé. Une nourrice en plein sommeil, qui avait balbutié pâteusement. « Madame me demande à voir le petit, mais monsieur veut-il que je l'aide ?»« Non, alors bien, monsieur. » Il n'avait pas fermé la porte qu'elle ronflait déjà, bercée par le chant monotone de la pluie. À Montmartre, cela fut plus simple encore. La garde, appelée auprès de Germaine, qui avait peur de la solitude, bavardait avec sa patronne et bavardait si bien qu'il put entrer, ouvrir la porte, opérer la substitution et partir sans qu'elle l'entendisse. Il ramena son enfant et le déposa sans encombre dans le berceau vide. La nourrice, dormait toujours. Il la réveilla à 7 heures du matin pour lui annoncer qu'il avait pourvu à son remplacement et que la remplaçante était là et il lui versa l'indemnité. La femme pleurnicha. Je l'aimais déjà bien. Je suis pas responsable s'il est ch'tio. Mais habituée aux caprices de maître, elle ne s'occupa plus que de sa malle. Faut-il que je parte tout de suite par cette pluie? Oui, tout de suite, je ne tiens pas à ce que vous voyez l'autre. C'est bien entendu, n'est-ce pas? Il surveilla lui-même son départ. Comme il n'avait pas dormi, il chancelait. Il dut cependant repartir aussitôt pour Montmartre où la maisonnée ne s'éveillait jamais avant 9 heures. La femme de Seine-et-Oise attendait devant la porte. Personne n'avait répondu à ses coups de sonnette. Benoît interpella vivement la garde. « Vous ne pouviez pas être debout à cette heure du moment que l'on venait chercher le petit. Madame m'a retenu jusqu'à minuit et demi. « Bon, c'est bon, j'entre. Restez couchés. J'ai pas besoin de vous. » Il apporta l'enfant à Germaine, le cœur serré, car là était le plus grand danger. Mais Germaine crut bon de jouer une scène d'exaltation maternelle. « Au revoir, mon petit. Au revoir, mon pauvre petit paria. » Elle embrassait avec emportement le fils de Nicole et de Robert Fournier. « Recommande bien à cette dame de le gâter et de stériliser le biberon. Au revoir, mon Lucien. » Et d'une voix de mélodrame, « Sois béni, mon enfant !» suivi de la plus incompréhensible crise de nerfs. « Adieu, pauvre petit misérable, adieu » cria-t-elle. Et pour terminer cette stupéfiante apostrophe, « Pense à ta pauvre mère !» Bien qu'il n'en eût guère envie, Benoît pouffa de rire dans son mouchoir. « Mais tu peux pleurer, crétin !» hurla Germaine. « T'es le seul responsable !» Elle ajouta quelques insultes qui firent du bien à celui qui en était l'objet, le ramenant à ce lugubre comique inséparable des drames humains. Après l'avoir traité de vieux pète-loup, de schnock et d'ignoble bourgeois qui se donnait des airs d'artiste, Germaine, essoufflée et calmée, songea qu'elle avait assez sacrifié au mélodrame et daigna sourire à la promesse d'une bague. La pluie avait cessé. Un pas lumineux souriait parmi les nuages qui se groupaient en fuyant. À la gare Saint-Lazare, Benoît déposa la femme qui, lestée d'argent, emporta son nourrisson sur une dernière promesse. Il sera comme un prince au bon air. Le sort en était jeté. Benoît rentra. La nouvelle nourrice allaitait placidement l'enfant qui venait de lui être confié. Elle constata, « Monsieur a bien fait, il avait faim ce mignon-là. »« C'est pas pour dire, mais il se trouve mieux. » Enfin Mésole mit Nicole au moment comme courant du changement de nourrice. Elle l'approuva. Alors il gagna sa chambre en titubant et tomba sur un fauteuil ivre de lassitude, de joie, de remords, dans un demi-évanouissement dont il sortit pour se traîner jusqu'à la cheminée, où il brûla les feuilles de carnet qui contenaient point par point les étapes de son crime. 6 mois après, Benoît fut accueilli par Madame Le Fierment, qui semblait très embarrassée. « Avec vos bontés, lui dit-elle, je suis bien ennuyée d'avoir à vous annoncer une mauvaise nouvelle. Je vous demande de ne pas trop en vouloir à Germaine. C'est une inconséquente. Si vous m'aviez consulté avant de vous mettre avec elle, je vous l'aurais déconseillé, moi, ma sœur, qui ai toujours suivi le droit chemin. Dès qu'elle a pu sortir, Germaine a été comme un cabri échappé. Soyons justes, vous veniez de moins en moins. » Et puis elle a appris que vous aviez eu un garçon de votre dame. ça la vexait. N'est plus que des infériorités qu'elle répétait. J'avais beau lui dire, mais le mariage est une chose, l'amour en est une autre. Elle se butait, vous comprenez. Le pire, c'est qu'elle s'est renfermée comme pas une autre. Quand vous veniez, elle causait avec vous de ceci et de cela, comme si elle ne vous en voulait pas. Votre erreur a été de ne jamais la sortir le soir. Dès qu'elle a été sûre de sa nuit, elle en a abusé. Oh, je la devinais et j'essayais de la retenir. Oh, autant arrêter un boulet de canon. J'ai ma vie arrangée, mêle-toi de ce qui te regarde. Rien n'y faisait, pas même l'idée de son Lucien. Elle est allée le voir en tout et pour tout, trois fois entre deux trains. Je lui faisais honte. Savez-vous ce qu'elle me répondait ? Occupe-toi de tes oignons. Je suis pas sur terre pour m'embêter, pour devenir moche comme toi. Bref, eh bien, elle ne pouvait pas se supporter seule. Qu'est-ce que vous voulez ? Elle s'est mise avec quelqu'un. C'est un chanteur, à ce qu'il paraît. Elle en est toquée. On appelait parmi. Ah non, j'y suis. L'Arcille, avec un Y. Il a fait miroiter Rio de Janeiro. Elle veut entrer au théâtre, là-bas, faire peau neuve, sous prétexte qu'elle n'a pas des pieds pour les pantoufles. J'en mets bien des pantoufles et j'en suis fier. Pour moi, malgré tout ce qui s'est passé, Germaine a eu de la chance de vous rencontrer. Je ne lui ai pas caché. La vérité, c'est qu'elle a envie de s'amuser. Et qu'avez-vous à me demander? Ou je me contente de vous transmettre. S'il m'envoie 30 000 francs, il n'entendra jamais parler de moi à condition qu'il s'occupe du grouillot. Voilà ce que je suis chargé de vous dire de sa part. Le grouillot, c'est Lucien. Elle m'a assuré que vous seriez très content de cet arrangement-là, et que pour Lucien, cela serait préférable, vu qu'elle ne se sentait toujours pas la vocation. Alors, bon, elle aura ses 30 000 francs. Oh, pour le petit, mon mari et moi, nous nous en occuperons, nous irons le voir. Si nous pouvions prendre la suite de la petite maison, cela nous serait bien agréable, à monsieur Léfirmont et à moi. Nous nous arrangerions pour le loyer. Soit. Ah, tenez, monsieur Maisol, quand je pense qu'elle a pu vous quitter. Celui qui s'appelait maintenant Jacques Maisol grandissait. C'était un enfant paisible. Nicole l'habillait ridiculement de soie et de velours, avec des cols de guipure, des bas de soie, des escarpins. L'amour du père pour son fils enchantait Madame Maisol. L'élan avec laquelle le fils disait « Mon papa » la faisait rire in petto. Il n'était pas très beau, d'un blond de lin avec un petit nez retroussé, qui ne ressemblait pas plus à celui de Robert Fournier, si délicatement aquilin, qu'à celui de Benoît. Mais Benoît, ayant découvert une photographie du temps qu'il était collégien, comparait parfois, en secret, la vieille image avec les jeunes traits, et contrôlait une ressemblance visible pour lui seul. « Mais tu en feras un capon, » reprochait Nicole à son mari. « Il ne se plaît qu'avec toi à regarder des gravures. Il n'arrive pas à obtenir qu'il joue. » Et Benoît, imperturbable, ripostait. « Que veux-tu ? Il tient de moi, j'étais tout pareil à son âge. » Elle se taisait, clouée par cette remarque. « Pareil à lui. » Mais elle s'efforçait de ne plus penser à Robert, qui ne répondait à ses lettres que par des billets indifférents, destinés à être lus par le mari. Tout à cet enfant qu'elle adorait, elle devenait bourgeoise, collet monté, et dissimulait, sous une parfaite correction, son effroyable ennui. Par les Stibiers et par les Hurdeval, elle fut admise dans un cercle de dames revêches qu'elle s'efforça de copier. On eut une Nicole aux cheveux tirés, aux gestes prudents, Une Nicole sans rouge aux lèvres, sans poudre de riz, jolie tout de même. Cette nouvelle incarnation amusa Benoît, qui trouvait délicieux le spectacle inespéré d'une épouse prude, sans défaillance pour les fautes d'autrui, et tournant à la dame patronesse. Quand il eut 9 ans, Jacques entra au collège. Germaine écrivit à cette époque une longue lettre dans laquelle, sur le point de contracter un mariage sérieux à Montevideo, elle demandait une dot de 50 000 francs dont elle fournirait à son fiancé une origine familiale plausible. Pas un mot de l'enfant. Elle s'était fâchée avec sa sœur pour ne point avoir à subir de demande d'argent de son beau-frère. Cette lettre serait la dernière, car il lui fallait, à son grand regret, couper les ponts qui la reliaient au passé. Le petit Lucien, pensionnaire en province, recevait régulièrement la visite de Mézôle, à qui il écrivait chez M. Lefièrement. M. Mézôle est un vieil ami de la famille. Ta mère voyage toujours, lui avait enseigné sa tante Madeleine. Quant à ton père, tu le connaîtras plus tard. Ils vivent séparés. Mais pas un mot de tout cela à tes camarades. Ce sont des secrets de famille. S'ils t'interrogent, aurait pour l'heure que ça ne les regarde pas. Lucien s'écria. Et comment? Quand ils me barbent, je leur fiche une bonne baffe et ça fait la rue Michel. Un gamin superbe, un tignasse ébouriffé, éclatant de santé et débrouillard. Après des années consacrées à la plus stricte vertu, Nicole fit la connaissance d'une veuve espiègle, très reçue, et qui prenait la vie du bon côté. Il ne fut plus question que de Madame Ittinger, puis de Betty, car les deux femmes se tutoyèrent bientôt. Les dames revêches furent abandonnées, du coup, au bénéfice d'une société joviale, d'industriels richissimes et d'oisifs élégants. Dès lors, la maison abandonnée à Benoît, Jacques put vivre en paix dans ses vieux costumes. Et ce fut à cette époque que retomba à Paris l'excellent Robert Fournier. Il avait reconstitué 10 000 livres de rente et entendait en vivre. Ce gentleman, fort présentable encore et qui affectait un léger accent anglais, ne revint modifié ni au physique ni au moral. Le retour d'une simple excursion. Il arriva chez les Mézôle le jour de réception de Nicole, sans s'être fait annoncer, entra et énonça simplement « Feu Robert Fournier, soi-même !» Nicole fut sur le point de s'évanouir. Par bonheur, elle était maquillée grâce au bienfaisant conseil de Betty. Cela lui rendit des forces. « Mais plus belle que jamais » déclara-t-il en baisant la main de Madame Mézôle. Et il ajouta « Comment va Benoît ?» Elle résolut de se mettre au diapason et de ne point se montrer plus émue ni moins parisienne que ce revenant du Nicaragua. « Ernest, » dit-elle au valet de chambre, « dites-le à monsieur que monsieur Fournier est là, qu'il vienne et qu'il amène Jacques. » Éperdue, elle s'imaginait assister au dernier acte d'un mélodrame. Madame Ittinger, flairant quelque anguille sous roche, s'intéressait. Fournier lui était sympathique, un bon vivant, et Benoît parut, suivi de Jacques, intimidé. « Voilà votre ami, balbutia Nicole, et notre, le petit, embrassez-le. » Du coup, le monocle de Robert Fournier tomba. « Bon vieux, ça me fait un tel plaisir. » Il essuya son monocle, le remit, le laissa tomber à nouveau et embrassa Jacques en feignant l'enjouement. « Ben, je suis ton oncle d'Amérique, un oncle à la botte de Bretagne. Tu permets, Benoît, que j'en fasse mon neveu ?» Il ajouta, Il est charmant, mon neveu. Ah, que je vous envie, un serin comme moi. Je n'ai plus que le bonheur des autres pour me réchauffer. Les personnes présentes, deux veuves austères de l'ancienne société, Madame Itinger, une cantatrice mondaine, un ami de Madame Itinger, sentaient peser un malaise qui les intriguait. On échangea des paroles indifférentes. Puis Benoît réintégra son cabinet de travail, suivi de Jacques qui refusa de rester malgré les injonctions de sa mère. Il est sauvage, mais je le corrigerai de ce défaut. Après Benoît, les visiteurs et les visiteuses s'éclipsèrent comme sur un signal. « Pas de reproche, » murmura Robert. « J'ai été si malheureux, ne me renvoyez pas. » Nicole n'avait aucune envie de le renvoyer. Elle s'était jugée vaincue tout de suite, dès qu'elle l'avait vu. Personne comme lui ne savait entrer dans un salon. Et cette annonce plaisante, « Feu Robert Fournier, voilé de mélancolie. Mais vous non plus, vous n'avez pas vieilli, Robert. N'est-ce pas ? Allons, mauvaise pièce, venez vous asseoir près de moi. On vous pardonne. » Ils reprirent les places accoutumées sur chacun des fauteuils qui se faisaient vis-à-vis, près de la cheminée. Ils bavardèrent, puis Fournier emprisonna les jambes de Nicole entre les siennes, et elle en conçut une telle volupté que la phrase qu'elle prononçait à ce moment m'eût étranglée dans sa gorge. « Navarin, » dit Robert, « célèbre par la bataille navale où la flotte turque fut détruite par les forces combinées de la France, de l'Angleterre et de la Russie. » Elle fit tout bas. « Oui, je vous y attends. Tout de suite, tout de suite. » Leur chambre de la rue de Navarin. Certes, Nicole n'avait point changé, mais elle apportait à l'amour une violence, une fureur sombre qui effrayèrent Fournier. Où était la fantaisie d'antan? Et quelle exaltation dangereuse! Vois-tu, quand il m'a embrassé, notre fils devant l'autre, oh, j'ai cru que j'allais crier. « Voilà ton vrai père, mon enfant, pour tu as eu raison de te retenir, » signifia Robert. « Je suis pauvre, je suis un vieux pauvre. D'abord, nous n'avons pas le droit de briser le cœur de cet homme que nous avons trahi. Tout est bien. Ne changeons rien pour l'amour du ciel. Je t'aime, tu m'aimes, et notre enfant est heureux. Comme il te ressemble. Oh, il me ressemble, mais ce n'est pas scandaleux, je te le répète. Tout est bien. Oh, sapristi, 8 heures, il faut que je m'en aille. Non, non, mon chéri, j'ai raconté à Benoît que je dînerai peut-être chez Betty. Nous ferons dînette ici, avec des gâteaux, comme autrefois. Autrefois, Robert avait un meilleur estomac. Il commanda pour lui un sandwich au jambon. Il se faisait une telle fête de manger au cercle avec les anciens amis qui avait commandé un champagne extraordinaire. Oh, il les rejoindrait à 10 heures et les prendrait ainsi au milieu du repas. On étouffait dans cette chambre. Fournier se jura d'espacer les rendez-vous. De tels jeux n'étaient plus de son âge. Mais comment arriver à calmer Nicole? Elle devenait grotesque, cherchait des noms tendres. Mon Robby. À 10h15, son Robby la quitta. Sitôt, l'envoya-t-elle. Et pour parler de lui encore, elle se rendit chez Madame Itinger. Il est exquis, s'exclama Betty. Elle-même avait un ami, lointain cousin qu'elle appelait Déo de Déoda, et qui lui servait de cavalier. Il fut entendu qu'ils initieraient Robert au plaisir du Paris nouveau. Robert fut très vite initié. Il avait reconnu en Betty une sœur d'élection. Leur premier regard avait été un regard complice. Déoda, obèse, gardait la placidité d'une mère indulgente. Nicole, sa passion devint échevelée quand elle s'aperçut que Betty se préparait à lui disputer son amant. Comme elle tenait beaucoup à Betty d'une part, et d'autre part à se montrer supérieure et bien moderne aux yeux de Robert, elle accepta le jeu. Mieux, elle les encourageait. Dansez donc ensemble. Betty est un excellent professeur. Et elle tenait compagnie à Déodat, qui buvait philosophiquement. Ma cousine est un peu folle, mais elle est incapable d'une méchanceté, affirmait-il. Et Nicole appuyait. Oh, j'en suis certaine. Mais elle harcelait Robert ensuite. Tu te conduis comme un collégien qui serait le dernier des buffles. Resté exilé 10 ans, pour tomber ensuite sous la coupe d'une maîtresse acariâtre et délirante. Il se vengea avec Betty. Mais quelle verve, quel esprit! Elle trouva des pseudonymes, Gnouf pour Benoît et pour Nicole, Gillette, Marc de Rasoir. Mais le gosse est de toi, affirmait Betty. Il n'y a qu'à entendre la voix de Gillette. Quand elle ordonna à son fils d'aller dire bonjour, le gosse est de toi. Mais non. Ta parole de gentilhomme, ma parole d'homme, mais il a toute la gourderie du père putatif. Mais tu voyons, il est délicieux, cet enfant. Bisque, ma vieille, tu le défends, il est de toi. Nicole voulut tromper Robert, elle connut un jeune étranger qu'elle accabla de coquetterie. Le jeune étranger était fougueux et naïf. Il lui déclara ses intentions qui étaient de tout avouer à M. Maisol. Nous lui expliquerons notre amour loyalement. Vous divorcerez, je vous amènerai chez moi. J'ai 5 sœurs et une vieille maman. Elle eut toutes les peines du monde à s'en débarrasser et revint à Robert, plus exigeante que jamais. Harassé, il s'arrangea pour que sa maîtresse le surprît en train de poser de délicats baisers sur la nuque de Betty Roucoulante. Nicole fit semblant de ne rien voir. Seulement, elle s'enferma pendant un mois et décida de se consacrer à l'éducation de Jacques. Une folie de sacrifice la gagnait. Elle voulait élever cet enfant dans l'amour et dans le respect de l'infidèle. Pour demain, tu me feras le plaisir d'étudier la géographie du Nicaragua. Notre ami Fournier y est resté 10 ans. Il a entrepris là-bas des cultures inconnues avant lui. Je t'expliquerai. Je veux qu'il te trouve très savant quand il t'interrogera. Mais Robert ne reparaissait point chez les Maisol. Il avait des soucis. Déodat s'était éclipsé. Il entendait bien faire toutes les volontés de son idole, mais ce tiers lui paraissait déplaisant, qui se laissait véhiculer gratis et ne soldait jamais une addition. Depuis qu'elle n'avait plus à le disputer, Madame Itinger estimait Fournier vieux et démodé. Ses plaisanteries dataient de 100 ans. De plus, sa pauvreté l'humiliait. Instruit par l'expérience, Fournier n'entendait point distraire 1 centime de son capital. Il s'en ouvrit à Betty, qui eut dès lors à son égard les intentions vexantes d'une princesse pour un gueux. Une voiture est inutile. Le tramway me dépose à ma porte. Prenons le tramway, cela ne sont pas toujours bons, mais qu'importe. Elle résolut de le fatiguer et y parvint très vite. Au bout de 4 balles, comme elle lui proposait de le conduire à 1/5, il renacla en termes vifs. Et elle le renvoya à Gnouf et à Gillette. Cette rupture le ramena donc au petit Jacques, pour qui il éprouvait une tendresse véhémente, à Nicole et même à Benoît. Nicole accueillit le repentant et l'invita tous les soirs à dîner, pendant 1 semaine, au bout de laquelle il s'excusa jovialement auprès du mari. « Bon, j'abuse, mon coco, Du tout, répliqua Benoît. Ton convers sera toujours mis le jeudi soir. Il comprit la leçon et voit à mes aules une haine solide qui l'attacha définitivement à Nicole. Ils retrouvèrent ensemble la société sévère qui les admit et où ils se plurent. Fournier de futile devint grave, sans transition. Ils connurent de sérieuses salles à manger et des salons littéraires. Nicole triomphait, elle disait de Madame Huttinger, « Elle est plus salubre. » Ils se firent une telle réputation que les Stibiers décidèrent de se réconcilier avec eux et d'éloigner Betty. Benoît les regarda évoluer avec une vive curiosité. Il les jugeait complets. Il leur parlait doucement, gentiment, comme à des infirmes. Il leur conseillait l'indulgence. « Oh, mais dans ta bonté, tu vas trop loin !» certifia Robert. « Mais je n'appelle plus ça être bon !» appuya Nicole. Sept autres années s'écoulèrent. La beauté de Nicole s'était pétrifiée. Robert avait des rhumatismes. Mézol était illustre. Jacques, adolescent studieux, ivre de science, ne s'arrachait plus à son travail. Il restait petit et sans coquetterie. Il portait des lunettes. Régulièrement, tous les 3 mois, Mézol s'absentait 48 heures, arguant du besoin qu'il avait de se trouver un peu seul et de méditer à son aise. Un soir d'été, comme il revenait de l'un de ses voyages, Nicole l'interrogea. « D'où viens-tu, original ?» Il ne répondit point. « Tu es sourd ?»« Non, pas encore. »« Je te demande d'où tu viens. Veux-tu que je te mente ?» Elle sursauta. « Me mentir ? » ?»« Oh, il faut que nous ayons une conversation sérieuse, Nicole. »« Allons, bon, qu'y a-t-il ?»« Je fais appel à ton cœur. »« Ah, donc c'est que tu es coupable ?»« Je suis coupable. » J'écoute. Nicole, j'ai un enfant. Toi? Oui, moi. Un enfant naturel? Oui. Et tu es sûr? Absolument sûr. Ben, c'est du propre. Tu pouvais me le cacher, au moins. J'ai jugé que c'était assez d'hypocrisie. De l'hypocrisie. Mais te taire, c'était me manquer du respect. Mais Nicole, il ne s'agit pas de toi. Mais pourquoi m'avez-vous tu cela aujourd'hui, plutôt qu'hier ou que demain? Parce que j'ai pris une résolution. Mais d'abord, quel âge a-t-il cet enfant? 15 ans. 15 ans. Tu m'as trompé quand je t'adorais? Or, ceci est de la discussion. Et quel ton, persifleur, désinvolte, j'ai pris une résolution, mais puis-je savoir? Oui, certes, chaque fois que j'ai prétexté un voyage, j'ai menti. J'allais voir mon fils. Je l'ai suivi du mieux que j'ai pu, mais de trop loin. Maintenant, il a l'âge de Jacques. Oh, je t'en prie, ne prononce pas en ce moment le nom de Jacques. Et je ne veux pas priver cet enfant des soins, de l'éducation, de la tendresse auquel il a droit. Oh, je n'aligne pas de phrases solennelles, mais je suis bien forcé d'employer les expressions convenues pour te faire comprendre. Suppose que tu aies eu un fils adultérin. Je te remercie. Je l'aurais adopté. Et tu veux que j'adopte le tien ? Oh, sinon, en fait, du moins. Oh, jamais. Ne dis pas jamais. Mais je demande à consulter mon père. Mais ton père est un imbécile. Benoît, Et tu le sais parfaitement. Réfléchis, un refus formel serait grave, je t'en préviens. Nicole se préparait à la riposte, mais il émanait de son mari une volonté si implacable qu'elle bredouilla. Mais nous qui vivions en harmonie, sans amour. Mais je t'ai donné un enfant. Tais-toi, voilà Robert. Il est assez notre ami pour juger. Fournier juge. Oh, ça c'est assez piquant. Mais Fournier arrivait. C'est moi qui lui expliquerai, trancha Nicole. Je parierai qu'il a découvert une lettre de moi, pensa Fournier. Et quand il sut de quoi il s'agissait, il ne put s'empêcher, dans son soulagement, de s'écrier « Bon, ce n'est que cela !»« Mais que cela !» s'écria Nicole. « Imposer à notre Jacques la présence de ce... De... »« Si, interrompit Benoît, il le faut. »« Mais que dirons-nous aux gens ?»« Mais la vérité... » Quand cela me décide, je refuse net. Benoît se retourna vers Fournier et reprit. Écoute, vous êtes là tous les deux, toi et Nicole. Mon Robert n'a rien à voir là-dedans. Oh, il comprendra peut-être mieux que toi. J'en horreur les manifestations d'énergie, mais elles sont quelquefois nécessaires. Si Nicole exige que je lui présente des excuses, je lui en présenterai. Là n'est pas la question. Elle est plus haute. C'est une question de justice. Mon fils sera le frère de Jacques. Il le faut. Je suis sûr de Jacques. Il est meilleur que nous, car il ne suffit pas d'être bon. Il faut avoir la bonté enthousiaste. Pour moi, j'aurais essayé de poser sur cette terre en faisant le moins de mal possible. Oui, Nicole, le moins de mal, en essayant de concilier mes sentiments avec l'absurdité féroce de la vie. Nicole, je t'en prie, un effort. Mais je suis outragée comme femme, je suis outragée comme mère. Un effort, Nicole, et pas de grands mots. Bien sûr, les pauvres êtres essayent en général de racheter leurs fautes avec des préjugés. Mais c'est de la fausse monnaie. Ne leur ressemble pas, Nicole. Je ne veux pas de victimes, surtout quand ces victimes sont innocentes. Et moi, hurla Nicole. Elle réfléchit un instant. Le rôle de martyr ne lui déplaisait point et achèverait de lui concilier les dames austères. Mais surtout la voix de son mari l'impressionnait. C'était une voix inconnue, une voix qui venait. Elle ne savait d'où, des profondeurs de la vérité. Elle objecta. Mais je n'ai même pas une chambre à lui donner. Mais mon cabinet? Mais tu travailleras où? Dans la bibliothèque, d'ailleurs. Il ne viendra guère que le dimanche et en vacances. Et il s'appelle? Lucien Bi.
Bi?
Oui, Bi. Quel nom? Il ne l'a pas choisi. Bon, je ne te pose pas de questions sur sa famille du côté maternel. Oh, tout le monde a disparu, sois tranquille. Et tu ne crains pas pour Jacques cette fréquentation? Non, non. Allons, je vois qu'il n'y a qu'à courber la tête. Je m'incline en faisant toutes mes réserves. Ce que je retiendrai surtout, c'est la façon dont tu m'auras averti. Il y avait de quoi me tuer. Elle sortit pour laisser croire que les larmes l'empêchaient de poursuivre. Mais mets-toi à sa place, commença Fournier. Mais je m'y suis mis. C'est une femme maintenant. Si tu veux un conseil. Je ne veux pas de conseil. Même de moi, mais surtout de toi. La raison. Ben une entre beaucoup suffira. C'est que n'ayant pas su arranger ta vie, tu es incapable d'arranger celle des autres. Mais je n'aurais au moins rendu personne malheureux. Et selon ta propre parole, c'est la seule noblesse humaine. Oh, garde cette illusion. Ah, pardon, je ne te permets pas. Ils s'affrontaient. Le crâne de Robert devenait cramoisi. Et il s'efforçait de vaincre sa lâcheté, le parasite, pour défendre son fils. Lui imposer la présence de cet intrus. Calme-toi, dit Benoît. Aussi bien il est inutile de nous disputer. Nous sommes entre vous, à peu près. Je n'ai pas de temps à perdre en chamaillerie. Use de ton influence auprès de Nicole pour qu'elle fasse le bien une fois dans sa vie. Mais ce qu'il y a d'agaçant, c'est que tu abuses des impératifs. Tu commandes ma parole. Précisément, je te donne un ordre. Oh, et s'il ne me plaît pas d'obéir, ben, ce ne sera pas drôle pour toi, je t'en fiche mon billet. Pour commencer, j'aurai le regret de ne plus te voir. Bon, il suffit, tu abuses de mon affection et tu vas prononcer des mots irrémédiables. Mais que suis-je là-dedans après tout, moi? Bon, tu es excité, tu te fâches, parce que tu t'es mis dans ton tort. Ah, pardon, j'ai le droit de placer un mot. Que l'on trompe sa femme, rien de plus naturel, ni même de plus légitime, quand ce sont de petites rigolades sans lendemain. Mais dès qu'il y a un lendemain, qui s'appelle Lucien B, et qui réclame sa place au foyer, tu désapprouves? Non, je n'approuve pas. Il y a une nuance. Bon, je parlerai donc à Nicole, mais comme ce garçon ne peut prétendre à la fortune de Jacques, nous sommes bien d'accord, n'est-ce pas? J'estime qu'il ne doit point se trouver ici trop souvent pour ne pas prendre de goût de luxe qui ne serait pas conforme à sa situation. Si j'étais toi, j'en ferais un serrurier d'art. Et pourquoi d'art? Il ferait des journées magnifiques. Plus tard, il épouserait une brave fille. Et pour les gens, oh, comme il faut bien penser aux gens, que diable, on vit pas dans un désert. Ce serait ton protégé, le fils d'un copain de régiment. Cela te va pas? Oh, sans reproche, tu les guerres commandes. Cette idée aussi, la noce popote, mais idiot. Si cela te chantait de t'amuser un peu, tu pouvais pas me le dire. Je t'aurais présenté des petites amies de tout repos. Allez, donne-moi la main, vieux. Je suis embêté pour toi. Tu es un peu romanesque aussi, un peu chimérique, mais brave type tout de même. Et tu me gardes ton estime de tout cœur. Je te suis bien obligé. On ne sait jamais si tu blagues ou si tu es sérieux. Mais je suis très sérieux. Tu viens de parler avec une éloquence. Tu as un talent de moraliste que je ne soupçonnais pas. Un peu le moraliste de chez Maxims, mais cela ne me déplaît point. Que ne t'ai-je écouté au temps de ma jeunesse? Je verrai ce garçon, consulta, calcula Nicole, et ensuite, après cette preuve de bonne volonté, je mettrai Benoît en demeure de choisir entre son fils et nous. Elle consulta Jacques. Tu es bien jeune, mais tu es raisonnable. Ton père a commis une grande faute. Maman, il ne m'appartient pas de juger. Bah, phrase toute faite. Tu peux juger. On te demande de partager notre tendresse, et qui sait même plus tard, une partie de la fortune qui te revient, avec un je ne sais quoi que tu devras considérer comme ton frère. En seras-tu capable? Certes, puisque papa me l'a demandé. Papa, et ne pas pouvoir lui crier la vérité. Ne sois pas petit garçon. S'il te plaît, tu n'auras pas à te forcer. Je saurai bien m'arranger. D'ailleurs, je dois avoir un entretien avec lui tout à l'heure, hors de la présence de ton père. Il s'agit de t'infliger, sinon un frère, ce mot-là m'horripile. Du moins un ami, intime. J'aviserai, mon instinct est infaillible. Si ma première impression est défavorable, je jure devant Dieu que tu ne le connaîtras même pas. Elle était résolue à agir seule. Benoît, oh, un imbécile, qu'il avait trompé en imbécile, se fourrant dans une ridicule histoire de paternité. Jacques, oh, un excellent petit garçon, timide et studieux, fervent et timoré que l'éducation, pensait-elle, de son pseudo-père, avait forgé à sa ressemblance, lui enlevant toutes les qualités qu'il pouvait tenir de sa mère et de Robert. Robert lui-même, vieilli, usé. Depuis beau temps, ils n'étaient plus que des amis. Dans leurs entrevues secrètes, elle lui confectionnait des tisanes. De ce côté aussi, elle avait éprouvé une amère déception. Mais son amour était devenu idéal. Il suffisait d'entendre Robert lui dire « Bonjour Nico !» de cette voix qui la caressait toujours, de savourer l'élégance avec laquelle il s'habillait, allumait une cigarette, tirait un mouchoir de sa poche, accomplissait ces gestes qui rendent les autres ridicules et où il était, lui, incomparable. Enfin, elle le trouvait intelligent, mais mou et puéril. En mûrissant, Nicole était devenue péremptoire. Il était assez agréable de rester forte parmi ces faibles hommes. Pour Benoît, elle lui ferait payer cher ses minutes. Sa bonté, parbleu, quand on a quelque chose à se reprocher, elle n'en serait plus dute et ne se gênerait point pour inviter Fournier désormais. Nicole gardait à son amant douillet, hésitant, amoindri, le culte qu'elle lui avait voué, fringant, désinvolte, paré de tous les désirs de femme, et doué, affirmait-elle alors, d'un singulier pouvoir dans les yeux. Pour cette entrevue, elle choisit une toute petite pièce qu'elle appelait son bureau. Elle s'assit derrière la table afin de procéder à l'interrogatoire. Elle ne se lèverait pas, elle sourirait et l'indiquerait au visiteur un siège qu'elle choisit bas et dur comme une sellette d'accusé. Elle allait enlever une rose qui trempait dans un vase de Chine et qui jetait, selon elle, une note trop frivole quand on frappa. Benoît parut, suivi de Lucien, et Nicole, troublée, garda la rose à la main. « Ma chère amie, dit Benoît en s'effaçant, je te présente mon fils. » Elle ne l'aurait pas soupçonné ainsi, grand, mince, élégant, avec une jolie figure que contractait l'émotion. « Asseyez-vous, monsieur, dit Nicole en désignant un fauteuil. » Mais Lucien s'assit sur le tabouret. « Je vous laisse, proposa Benoît. Mon enfant, je te laisse avec ma femme qui voudra bien, j'en suis persuadé, remplacer ta mère. » Quand il fut parti, « Madame, déclara le jeune homme, je sais combien je puis être importun. Tout à l'heure, quand mon père a sonné, j'ai cru que mes jambes ne me porteraient pas. Vous m'excuserez. Non, remettez-vous. Voulez-vous prendre quelque chose ? Oh non, merci, madame. Je devine tout ce que cette entrevue a de pénible pour vous. Je tiens à vous exprimer ma reconnaissance. Mon père est la générosité même. Dans son désir de tout concilier, il vous a peut-être demandé un sacrifice trop grand. Mais il n'y a pas de sacrifice trop grand, édicta Nicole, stoïque. Mon devoir est de vous rassurer. Il raconta ses 8 années de pensionnat dans un collège de province, et pour être libre plus vite, il avait bûché ferme. Il serait en mesure de passer son baccalauréat à la session prochaine. Ensuite, il prierait son père de le laisser voyager pendant 2 ans. Après, il espérait se créer une situation indépendante dans l'industrie. Il tenait à le déclarer, il ne serait jamais une gêne. Il n'avait pas besoin de l'affirmer. Il serait toujours celui que l'on désire et qui passe, avec un sens merveilleux, féminin de la séduction. Nicole ne l'écoutait guère. Elle était subjuguée. Ce qui restait de femme en elle subissait l'ascendant de ses yeux bleus d'un éclat charmant, voilé par les larmes de cette parole aisée et caressante. Il disait sa joie. « Grâce à vous, madame, j'aurai un port d'attache. Je saurai, même quand je serai très loin, qu'il y a, vous le permettez, n'est-ce pas, madame, une famille, je ne serai pas tout à fait un étranger. Et je crois que cela me portera bonheur. » Nicole se leva et dit brusquement, « Je vais vous conduire auprès de mon fils, Jacques. » Jacques travaillait en bras de chemise dans sa chambre. « Ton frère, » présenta Nicole, théâtrale. Les enfants s'embrassèrent, et Nicole se retira. Tant de mansuétude de sa part l'étonnait. Qu'étaient devenues ces belles résolutions? Et pourquoi cette faiblesse soudaine? Eh bien, par-dessus ses lunettes, Benoît la regardait. Une colère la prit. « Oh, si j'ai des cheveux gris, remarqua-t-elle, je te les devrais. » « Où est-il ? » ?»« Avec Jacques. Et que penses-tu de ce pauvre garçon ?»« Oh, pauvre garçon ! » !»« Il demande surtout un soutien moral. Il veut rester au collège jusqu'à son bachot, voyager ensuite. »« Ah, mener une existence de rentier. »« Mais non ! » !»« Il t'a déplu ?»« Quel mot ! » Non, oui, il a l'air d'attacher une importance démesurée à la toilette. Bon, je lui ai acheté le premier costume venu, tout fait. Tout fait, mais il est mieux habillé que Jacques. Mais là n'est pas l'essentiel. Ton impression d'ensemble. Nicole haussa les épaules. Benoît avait une façon insupportable de lui parler, une ironie qu'elle devinait sous ses moindres phrases. Certes, il avait eu de la passion pour elle, puis une sorte de tendresse apitoyée. Et maintenant, elle l'amusait. Elle n'exerçait plus aucune action sur lui. Et cela, qu'elle sentait confusément, l'irritait. Mon impression, à quoi bon, cela te fâcherait. Mais tout de même. Eh bien, mon cher, il n'y a pas besoin de l'observer longtemps, avec ses petites façons. Ses intonations de cabot, son désir de plaire, pour s'apercevoir. Va, pour s'apercevoir. Mais que c'est le fils d'une grue. Benoît admira sa femme et dit simplement, « Peut-être. » Et il se remit au travail. Henri Duvernois.